7h36, Catherine Dutu, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Ce qui a retenu votre attention ce matin, c'est une série de reportages et d'enquêtes sur la crise migratoire en Tunisie.
Migration, ce piège tunisien que l'Europe entretient. C'est le titre de l'enquête réalisée par Gaëlle Henkens pour le pôle investigation du groupe belge IPM, qui compte notamment La Libre Belgique et le magazine Moustique. Alors que l'Europe finance l'État tunisien à hauteur de 105 millions d'euros pour endiguer le flux migratoire à travers la Méditerranée, des migrants subsahariens finissent traqués, agressés, exploités et emmenés de force au Sahara, sans pour autant que cesse le business florissant des passeurs, insiste le groupe IPM. La photojournaliste belge Gaëlle Henkens explique avoir choisi de se rendre dans la région de Sfax, dans l'est de la Tunisie, pour voir si la tension était retombée après le discours du président Kais Saied en février 2023. Il avait dénoncé l'arrivée en Tunisie de hordes de migrants clandestins, attisant la violence physique et verbale contre les exilés subsahariens. Nous en avions parlé ici même l'an dernier. Depuis, le sort des migrants a empiré, comme en témoignent Ina et Pierre, un jeune couple de Camerounais, arrêtés et emmenés trois fois dans le désert à la frontière libyenne, abandonnés sans eau ni nourriture, drogués par les forces de l'ordre, affirme Pierre, pour ne pas opposer de résistance. Le jeune Camerounais dit aussi avoir été frappé avec une barre de fer à la tête, au bras et à la jambe. Les exilés subsahariens sont désormais relégués, explique encore la photojournaliste belge Gaëlle Henkens, dans les zones rurales de Djbeniana, au nord de Sfax et à El Amra. Des centaines d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés vivent dans des campements de fortune au cœur des oliveraies, contraints de dormir dehors sur des matelas ou à même la terre ocre, en attendant de rejoindre l'Europe, comme l'explique le site tunisien indépendant Inkifada et le journal tunisien Business News. Pour qui El Amra est aujourd'hui l'épicentre de l'échec des autorités devant la crise migratoire. Même constat de la part de la photojournaliste belge Gaëlle Henkens.
À El Amra et Djbeniana, la présence des personnes noires n'est tolérée qu'en dehors de l'espace public visible, c'est-à-dire au-delà de la route principale, dans les oliviers, alors qu'en octobre, elle fréquentait encore les cafés et les commerces locaux. Les conditions de vie sont donc rudes dans ces campements, de nombreuses personnes sont malades et fragilisées psychologiquement, la gale est généralisée, ils boivent l'eau des forages et n'ont pas d'autre choix que de sortir sur la voie publique pour se ravitailler dans les petits commerces en s'exposant toujours au risque de l'arrestation et de la déportation.
Pour survivre, des enfants vont mendier en ville à El Amra, raconte le Guardian à Londres. Mais ils peuvent être victimes de violences sexuelles. Le quotidien britannique de gauche alerte ainsi sur le sort des 1500 enfants non accompagnés bloqués en Tunisie, séparés de leurs parents. Des migrants arrivent par ailleurs à gagner 6 à 9 euros par jour dans divers travaux agricoles, poursuivent le site tunisien Inkifada. Mais ils sont moins payés que les Tunisiens et le groupe belge IPM note que la migration sert les habitants d'El Amra, souvent pauvres. Ils participent aussi au départ vers l'île de Lampedusa en Italie, car c'est une affaire juteuse pour eux. La traversée coûte environ 500 euros, payable d'avance et sans garantie, explique le groupe belge. Et même les enfants du village jouent un rôle d'alerte lorsque la police débarque. Pour Business News, les migrants n'ont donc d'autre choix que d'essayer encore et encore de fuir la Tunisie, sauf qu'ils sont interceptés, un cercle vicieux et une situation explosive.
Direction l'Inde à présent, qui va appliquer, Catherine, une loi sur les migrants, une loi qui exclut les musulmans.
Le ministre indien de l'Intérieur l'a annoncé hier. Le gouvernement indien va promulguer une loi controversée sur la citoyenneté qui permet aux minorités religieuses non musulmanes du Pakistan, du Bangladesh et de l'Afghanistan de demander la citoyenneté indienne, comme l'explique le quotidien The Hindu et CNN. La loi avait été adoptée en 2019, déclenchant des manifestations réprimées dans le sang. L'annonce de sa mise en œuvre intervient avant les élections générales du printemps prochain, où le Premier ministre Narendra Modi briguera un troisième mandat, rappelle CNN. Et l'opposition indienne accuse donc le BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, d'opportunisme électoral, relève la BBC. Il s'agit de modifier la loi sur la citoyenneté indienne, vieille de 64 ans, qui empêche actuellement les migrants clandestins de devenir citoyens indiens. En vertu de la nouvelle loi, ceux qui cherchent à obtenir la citoyenneté devront notamment prouver, précise The Hindu, qu'ils sont arrivés en Inde en provenance donc du Pakistan, du Bangladesh ou d'Afghanistan avant le 31 décembre 2014. L'objectif est, selon le ministre de l'Intérieur, de protéger les hindous, les sikhs, les bouddhistes, les jaïns, les parsis et les chrétiens vivant dans ces pays. Mais les opposants à la loi affirment, eux, qu'elle est discriminatoire, qu'elle exclut les musulmans et viole les principes laïques inscrits dans la constitution indienne. Ce texte fondamental interdit toute distinction entre citoyens pour des motifs religieux, rappelle la BBC. Aujourd'hui, donc, cette nouvelle loi sur la citoyenneté n'inclut pas, par exemple, ceux qui fuient les persécutions dans les pays à majorité non musulmane, comme les réfugiés tamouls du Sri Lanka. La loi ne prévoit pas non plus de dispositions pour les réfugiés musulmans Rohingyas du Myanmar, la Birmanie voisine. Le syndicat des étudiants de l'Assam, fer de lance des manifestations de 2019 dans l'état du nord-est de l'Inde, a appelé à la grève aujourd'hui. Et puis au sud, dans l'état du Kerala, le parti communiste indien au pouvoir refuse d'appliquer la loi. Il appelle à des manifestations dans tout l'état pour dénoncer ce texte, donc, qui a pour but de diviser, selon lui, le peuple, d'inciter à des sentiments communautaires. Sachant que depuis l'arrivée au pouvoir de Narendra Modi, il y a près de 10 ans, note CNN, les critiques affirment que l'éthos fondateur laïque de l'Inde, la plus grande démocratie du monde, s'effrite à une vitesse alarmante. In fine, la BBC craint que cette loi sur la citoyenneté, combinée à un projet de registre national des citoyens, ne devienne un moyen de persécuter les 200 millions de musulmans que compte l'Inde.